Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Le 12. On commence ça net frais de sec. Le 12.
Ça part ici.
Bon midi à tous et à toutes. Bienvenue au 12 sur les ondes de CFAQ 88.3 FM. Ici Alexandre Leclerc. Je serai avec vous tout l'heure du midi pour faire une petite revue de l'actualité du campus. On va recevoir des membres de l'AIES pour parler de la hausse des frais de scolarité pour les étudiants et étudiantes internationales. On va recevoir aussi la FEUS vers midi 15 pour parler de leur projet. On va recevoir également Natacha Gay-Fontaine de du collectif pour parler de la nouvelle édition du journal. Bref, tout ça sous un petit tapis de neige qui nous est tombé ce matin à cette veille d'Halloween. Donc, ça nous rappelle que l'hiver s'en vient très prochainement. On est avec vous jusqu'à 13h. Restez des nôtres, on vient dans quelques instants. Natacha, excuse-moi d'avoir déformé ton nom comme ça. Ça va bien.
Je pense que mon micro est ouvert.
Oui, tu m'entends pas? Tu m'entends pas?
Moi, je m'entends pas.
Ah, OK. Bon, ben, on va régler ça plus tard. Tu peux juste enlever un de tes écouteurs comme ça. Ben oui. Ça va bien?
Ben, ça va très bien, oui.
Aujourd'hui, ben, tu nous parles, évidemment, là, de quelques articles qui sont parus. Je pense que l'édition est sortie la semaine de relâche,
ouais,
donc on
n'a
pas eu le temps d'en parler. Donc, tu voulais commencer peut-être avec une petite nouvelle, dans la section sport et bien-être, là, qu'on n'a pas abordé tant que ça, je crois, là, depuis le début de nos chroniques.
Oui, une question qui est un peu passée sous les ponts, mais il y a un article très intéressant qui est paru la semaine dernière à propos de la dépendance au téléphone cellulaire. Donc, on sait que dépendance au téléphone cellulaire, ça rime aussi avec dopamine. Et ouais. Une étude qui est sortie récemment a démontré que les adultes passaient environ 11 heures par jour sur différents médias, notamment nos téléphones. Donc, c'est beaucoup de temps qu'on passe. Et à chaque fois qu'on reçoit une notification, qu'on passe temps sur le téléphone, on génère de la dopamine. Et la dopamine, c'est quoi? Mais c'est l'hormone du plaisir. Puis, ça fait en sorte que c'est ça qu'on est motivé, c'est ça qui nous rend heureux aussi. Puis, l'étude démontrait que quand on a une exposition constante à la dopamine, ça peut mener à des malaises, voire à la dépression.
Okay.
Ils ont fait une étude sur des rats, notamment, que je trouvais bien intéressante. Ils ont mis des rats dans un endroit qui était stimulant. Puis, ils ont vu une augmentation de la dopamine versus les rats qui étaient mis dans une cage un peu monotone.
OK.
Et donc, ils ont pris d'autres rats aussi dans lesquels ils avaient injecté la dopamine au préalable. Quand ils ont mis dans l'endroit stimulant, bien, ils ne généraient pas plus de dopamine. Donc, ça montre un peu que quand on est surexposé, surstimulé, on n'arrive plus à capter les petits plaisirs de la vie.
Mm-hmm. Puis, comment est-ce qu'on sait, justement, effectivement, là, on passe souvent du temps sur notre cellulaire, que ce soit avec l'école, les travaux d'équipe ou peu importe, on est beaucoup surstimulé. Mais comment est-ce qu'on sait là, si on est bel et bien accro puis pas juste en train d'utiliser son outil de travail ou je sais pas trop?
Oui, c'est une bonne question, considérant qu'on l'utilise vraiment beaucoup dans la vie de tous les jours. Eh bien, vous pouvez vous poser les questions suivantes. Par exemple, est-ce que vous préférez regarder votre téléphone cellulaire au détriment de certaines activités, comme faire du sport, ou passer du temps avec votre famille, ou lire un livre peut-être? Est-ce que vous êtes en colère ou triste quand vous recevez moins de likes versus est-ce que vous êtes heureux quand vous en recevez beaucoup? Est-ce que vous avez tendance à vous sentir déconcentré quand vous n'avez pas votre cellulaire avec vous, voire un peu énervé parce que vous ne l'avez pas proche de vous? C'est des questions que vous pouvez vous demander. Puis si c'est le cas, mais ça se peut que vous ayez une certaine dépendance.
Est-ce que c'est ton cas?
Mon cas, moi, je dirais que ça va par phase.
Ouais.
Puis je suis le genre de personne qui peut éteindre son cellulaire, fermer toutes les applications pendant 3 semaines, puis après ça, les réinstaller pour quelconque raison. Donc, ça dépend. Je pense que c'est quelque chose que je suis consciente, mais comme tout le monde, c'est quelque chose qui est difficile à faire dans notre mode de vie, de dire qu'on laisse ces applications-là de côté puis qu'on focus sur l'essentiel.
Mm-hmm. Ouais. Moi, je me reconnais surtout dans l'espèce de malaise quand tu ne l'as pas sur sur toi ou je sais pas trop. Parce que je pense pas que... Oui, je passe beaucoup de temps sur mon cellulaire, mais je pense que c'est plus la nature de mon travail au quotidien qui fait que je dois être disponible ou rejoignable assez fréquemment. Mais effectivement, je ressens le malaise quand je l'ai pas sur moi. Mais moi, je suis très... tu le sais peut-être, là, mais c'est ça. Je visionne beaucoup de films. Ou en tout cas, je suis un grand cinéphile. Puis ça, moi, c'est ma règle d'or. On regarde jamais notre cellulaire si on est en train de regarder la télé ou on est en train de regarder un film.
C'est vraiment un bon conseil d'ailleurs parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui font les deux en même temps parce que regarder un film, c'est plus suffisant pour te stimuler. Donc, tu regardes ton téléphone cellulaire en même temps.
Ouais.
Puis c'est vrai qu'une bonne façon d'essayer de contrer ta dépendance au téléphone cellulaire, ça serait justement de focusser sur une activité à la fois.
Ouais, exact. Donc, faites un test, mais surtout allez lire l'article qui aborde ce sujet-là en fond. Natacha, dans les deux dernières capsules, on a parlé de la fameuse présidence aux États-Unis. Et puis là, la Chambre des représentants a finalement élu un président.
Finalement, oui, je vous ai un peu énervé avec ça durant les deux dernières capsules.
Tu suivais beaucoup, ça te tient à cœur. Que finalement, c'est un bon vieux républicain qui l'a eu.
Exactement, il s'appelle Mike Johnson. C'est un peu un inconnu à la Chambre des représentants parce que ça fait juste depuis 2017 qu'il est là. Il n'y a pas eu une grosse médiatisation sur lui. Par contre, c'est un des chouchous de Donald Trump. Donc, pas surprenant qu'il ait été élu à la Chambre des représentants. Il a quand même réussi à rallier la majorité des voix républicaines de son côté, ce que les quatre autres candidats n'avaient pas réussi à faire avant lui. Puis, un des aspects qui ressort des autres, c'est notamment le fait qu'il est de droite dure, il est contre le mariage homosexuel, il est très hostile aux droits envers la communauté LGBTQ+ aussi.
En même temps, c'est pas une bonne chose qu'on le mette comme président parce qu'au final, il pourra pas voter sur les projets de loi un peu bizarres. Lui, son rôle maintenant, c'est de faire respecter le décorum en chambre. Fait que m'enlève son opinion du pool. Puis,
mais c'est d'essayer de faire passer aussi les textes, les projets de loi. En fait, c'est ça que Kevin McCarthy avait pas réussi à faire selon le Parti républicain. Il avait réussi à faire voter. Il a réussi à éviter la paralysie du Congrès. C'est quand même une grosse réussite, mais c'était pas suffisant pour le Parti républicain. C'était trop de. Il y avait trop de compromis démocrates dans ce texte-là quand ils ont adopté le prolongement du financement pour le budget fédéral.
Quand même drôle qu'un proche de Trump soit pour ces institutions-là puis qu'il fasse partie, qu'il protège ces institutions-là, alors qu'on sait que Donald Trump et les institutions,
en tout cas, c'est dans l'eau chaude.
Ouais, c'est ça, exactement. Fait qu'on verra la présidentielle qui s'en vient. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va se passer
moi
chez
aussi,
nos amis du Sud.
Moi aussi, je suis ça également. Puis par ailleurs, une des priorités que Mike Johnson a dit, c'est qu'il allait apporter son soutien à Israël. On sait qu'il y a quand même un conflit depuis le 7 octobre, une guerre meurtrière qui se déroule en ce moment. Et les États-Unis ont apporté leur soutien, mais qui n'a pas de limite, en fait, à Israël.
Ouais. Mais justement, c'est un des articles qu'on retrouve aussi sur ce conflit-là. On retrace un peu, parce que c'est pas le premier conflit de genre. Là. Il y en a un aux 4 ans, là, quasiment. Là. Mais celui-là a marqué peut-être par sa rapidité, puis le nombre de morts quand même assez rapide qui se sont accumulés. Là. Bref, dans le collectif, vous abordez ce conflit israélo-palestinien. Là.
Oui, exactement. Comme tu l'as mentionné, c'est aussi par rapport à la rapidité de ce conflit-là. En fait, l'armée israélienne, elle est très puissante, si on peut dire comme ça. Elle a gagné presque toutes les victoires depuis les dernières décennies, notamment quand ils ont eu une partie du territoire en 1947 par l'ONU, puis que la Palestine s'est révoltée et qu'elle ne voulait pas, Israël a gagné, a gagné le conflit.
Ouais.
Puis ce qu'on a vu, c'est que pendant un an, tu sais, ça se prépare pas du jour au lendemain une attaque comme le Hamas a fait. Donc, visiblement, Israël a manqué d'informations, n'a pas su répondre à cette attaque-là. Mm-hmm. Donc, ça a été une attaque surprise qui a fait beaucoup, beaucoup de morts le 7 octobre, puis qui a déclenché une guerre meurtrière depuis.
Oui, exact. Puis c'est ça, tu sais, le Hamas... ça fait des guerres un peu éclairs parce qu'on sait que c'est je sais pas
c'est
si c'est officiel c'est ça c'est s'il est classé officiellement c'est ça c'est un mouvement terroriste qui s'arme pendant quelques années puis on est toujours un peu surpris à quel point ils parviennent à s'armer aussi je veux pas dire facilement mais on va dire lourdement ou avec autant justement
avec l'appui de l'Iran c'est sûr que puis d'autres pays arabes également vraiment on l'a vu quand Israël a attaqué un hôpital dans la bande de Gaza. Tous les pays arabes et musulmans autour ont montré leur solidarité envers la Palestine. Alors que tous les pays occidentaux apportent leur soutien à Israël, on voit une solidarité entre les pays musulmans. Ouais. Et notamment en Égypte, où est-ce que normalement les manifestations sont interdites, eh bien tout le monde est allé dans la rue pour manifester, pour montrer leur soutien envers la bande de Gaza, envers la Palestine.
C'est parce que c'est pas au printemps, c'est pour ça qu'ils n'ont pas réprimé les révolutions. Mais tu sais, je pense que ce qui est important de mettre en lumière aussi, là, c'est tout aussi là, les crimes de guerre qui se font des deux côtés. Là, vraiment, tu sais, des blocus, essayer de ben oui, miner le moral, mais tu sais, s'attaquer à la population civile aussi plutôt que juste un conflit armé classique, entre guillemets, entre de soldat à soldat. Là. Fait que c'est important qu'on en parle. Je pense qu'il y a quand même une belle couverture médiatique qui est faite des enjeux. Mais effectivement, là, je ne sais pas à quel point... Je pense pas que c'est une guerre qui va durer dans le temps, mais cette guerre éclair-là là, pourrait faire quand même plusieurs morts puis avoir des répercussions importantes. Fait que...
C'est important de nuancer les deux côtés dans ce conflit-là. Autant le Hamas fait des attaques, mais Israël aussi fait des attaques. Puis il y a beaucoup de réfugiés qui se dirigent vers le sud de Gaza en ce moment pour essayer de se réfugier entre la frontière de la bande de Gaza et l'Égypte. Et puis, justement, c'est une des critiques qui est faite envers l'Occident parce que l'Occident était là pour dénoncer les violations du droit international qui étaient faites en Ukraine quand la Russie a envahi. Mais quand vient le temps de dénoncer les violations du droit international en Palestine, dans le conflit
israélo-palestinien. Ça s'est fait pas mal plus vite.
Et c'est sûr, exactement.
Puis les gens ont pris position rapidement, ont donné leur support, financier et moral très rapidement, alors qu'en Ukraine, tout le monde avait peur de se mouiller. Puis, je pense que la plupart des gens étaient pour l'Ukraine.
Israël fait mais, aussi des violations du droit international, mais on focus en ce moment sur le fait qu'elle a le droit à la légitime défense face à un mouvement terroriste.
Donc, c'est bien compliqué. C'est difficile un peu d'avoir, pas nécessairement une opinion sur le sujet, là, mais tu sais, il faut rester informé, puis il faut, au final, il faut protéger justement les populations civiles qui vivent année après année dans la crainte d'une autre guerre ou d'un autre conflit, du moins.
Exactement. J'avais nos auditeurs à aller voir les nouvelles, puis aussi à s'intéresser aux résolutions qui passent à l'ONU, parce qu'il y a beaucoup des relations internationales qui se passent dans l'enceinte de l'ONU. Il y a une résolution qui a essayé d'être passée par le Brésil, qui visait à faire une trêve humanitaire, et les États-Unis ont mis leur droit de veto là-dessus parce qu'ils disaient que ça n'impliquait pas le droit de défense d'Israël, même si ça dénonçait le Hamas comme un groupe terroriste.
Donc, à suivre. Merci pour ce topo express. Évidemment, là, renseignez-vous sur ce conflit-là. Natacha, la prochaine édition du collectif, ça sort lundi prochain, si je ne m'abuse.
Oui, exactement.
Donc, on pourra se reparler de la prochaine édition la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui.
Merci à toi.